Chapitre 76. Les forêts, les lacs et les champs défilent dans l'obscurité en contrebas. Depuis l'hélicoptère, Juna distingue le scintillement du golfe de Botnie. Lorsqu'ils font une embardée, ils voient les énormes réacteurs de la centrale nucléaire illuminés qui se dressent comme trois blocs de marbre poussiéreux dans une carrière. Après avoir atteint son paroxysme, la migraine l'a lâché au bout de 40 minutes. Mara Makarov a disparu dans le réseau des tunnels automobiles. Malgré l'heure tardive, Juna a convoqué une réunion avec Peter, Greta et une partie des équipes de la NOA. L'atmosphère était pesante. Tous étaient sous le choc et épouvantés. À partir des lieux de découverte de Kapellskär, Alstavik, Funbo, l'île Kurka et Röcklinge, Juna a dessiné un M à 9 points, 3 par ligne, sur une carte détaillée. La lettre est large de 100 kilomètres. Les points restants pour compléter le M sont la réserve naturelle de Fibu, l'église de Forsmark, la mine de Ramael et l'autoroute près de Moraberg à Södertälje. Des voitures de police et des ambulances ont aussitôt été envoyées sur les 4 sites. Lorsque Juna a appris qu'un pick-up Ford boueux avait été filmé par un radar juste à l'entrée d'Uppsala, il a envoyé un hélicoptère. L'église de Forsmark est située à 1 heure au nord d'Uppsala. Si Juna a raison au sujet du système de Mara, elle était en train de s'y rendre. Rien n'a encore été trouvé autour des tombes datant de l'âge de fer de la réserve de Fibu, mais la police attend des chiens pour pousser les recherches. Il n'y a rien non plus au point situé au milieu de l'autoroute E4-E20 à Södertälje, et les chiens n'ont détecté aucune odeur le long des routes et des fossés. Une équipe de la NOA est en route pour la mine de Ramel. 3 de ces sites peuvent, d'une manière ou d'une autre, être considérés comme des lieux de sépulture. Y compris la mine de Ramel, puisqu'un ouvrier mort dans un accident en 1846 n'a jamais été sorti du puits effondré. Seul le point situé sur l'autoroute vient rompre la logique de Mara Makarov. À bord de l'hélicoptère, Juna survole maintenant la communauté minière de Forsmark. Une rue de parade rectiligne traverse la petite agglomération entre l'église et le château. Illustration troublante des 2 centres de pouvoir de la ville. Dans le bruit sourd du rotor, l'appareil passe au-dessus du cimetière. Une voiture de police bloque l'entrée de la maison paroissiale et une ambulance attend un peu plus loin dans l'allée. L'hélicoptère descend en se balançant, arrache au passage quelques feuilles à la cime des arbres, puis se pose en douceur sur le terrain gravillonné devant l'église. Du sable et de la poussière forment un nuage autour de l'appareil et les arbres s'inclinent en tremblotant. 2 officiers de police en uniforme sont campés sur les marches de l'église et s'agrippent à leurs casquettes pour éviter qu'elles ne s'envolent. Le rotor ralentit et les pales se mettent à tourner plus lentement. Juna sort de la cabine et court, dos baissé, jusqu'à ses collègues. Tous 2 sont grands et larges d'épaules. L'un a une barbe noire bien entretenue et un cou tatoué. L'autre est roux, avec des taches de rousseur. Un sachet de snus est coincé sous la lèvre supérieure. « On vient d'arriver, mais on n'a trouvé aucun corps ici », l'informe l'homme barbu. « Regardez dans les arbres », dit Juna. Et il commence à contourner l'église par la droite. Le policier roux le suit le long de la façade de la nef. Leurs chaussures crissent sur le gravier de l'allée. Juna se retourne et voit le barbu marcher du côté de l'ambulance et s'arrêter sous chacun des arbres de l'avenue. Tout est immobile, comme en hibernation. Le schéma ne peut pas être le fruit du hasard. Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence. Juna perçoit la respiration de son collègue derrière lui. Sous la lueur grise de l'éclairage de la façade, les allées gravillonnées serpentent entre les pelouses tondues, au milieu des buissons touffus et des rangées de pierres tombales. Derrière l'église se dressent 5 grands frênes. Juna braque sa lampe de poche entre les branches et sous la couronne des arbres. Il entend un bruissement dans les feuilles. Le policier roux sursaute lorsqu'un pigeon s'envole. Il retire son snus avec son doigt et le jette dans le parterre de fleurs tout en continuant à marcher derrière Juna. Au-delà des pierres tombales se trouve une petite maison de gardien au toit en tuiles qui se découpe sur la forêt sombre et cache en partie l'autoroute. Juna coupe à travers la pelouse. Le faisceau de sa lampe de poche se reflète dans une des fenêtres. Des gouttes tombent du robinet extérieur de la maisonnette dans un seau. Une brouette, un dévidoir et une pelle sont posées à côté du mur en crépi. De vieilles couronnes mortuaires ont été balancées sur le compost à l'arrière. Ils les dépassent et se dirigent vers la forêt. Leurs lampes de poche balaient les troncs pâles et les longues ombres vacillantes entre les arbres. Juna contourne un petit bloc rocheux recouvert de mousse verte. Le mur du cimetière apparaît à travers la végétation. Un bruit sourd retentit derrière lui lorsque son collègue marche sur une branche. Il s'arrête sur les fondations d'une maison envahie par la végétation et regarde autour d'eux. Un énorme chêne se dresse contre le mur du cimetière. Ses branches sont cachées par d'autres arbres, mais une ligne diagonale capte une partie de la lumière de la lampe de Juna. Ils perçoivent un son métallique au loin, comme des objets qui s'entrechoquent dans un seau en métal.
C'est quoi ce bruit ?
Murmure le collègue. Juna traverse un fourré, enjambe un bouleau couché et oriente la lampe vers l'avant tout en saisissant la crosse de son pistolet de sa main gauche. Une corde tendue court depuis un tronc d'arbre couché jusqu'à l'énorme chêne.
Préviens l'ambulance !
Lance Juna à son collègue en accélérant. Un grand sac en plastique, entouré de rubans adhésifs, est suspendu à une branche épaisse.
« Putain, mais c'est quoi ?»
murmure le policier aux cheveux roux. Mara a probablement fait une marche arrière depuis l'autoroute et s'est arrêtée juste devant le mur du cimetière. Malgré le frein à main, la voiture a dû reculer pendant que le treuil soulevait le sac au-dessus du mur et le câble a fait une profonde entaille dans la branche.
« Dépêche-toi !»
lui écrit Juna. Des bouts d'écorce tombent de la branche du chêne et l'un des pans du sac se déforme. Le tissu et le plastique se bombent et plusieurs cordes se tendent en tremblant.
« Il est vivant !»
hurle Juna en revenant sur ses pas.
« Oh, mon Dieu !»
Le collègue attrape sa radio, appelle l'ambulance, se faufile entre les broussailles, se prend les pieds dans les branches, tombe et se relève aussitôt pour reprendre sa course. Juna s'élance à travers les fondations envahies par la végétation jusqu'à la maison de gardien, déroule le tuyau d'arrosage du dévidoir et le connecte au robinet extérieur. Le policier roux sort de la forêt et appelle son collègue d'une voix effrayée. Celui-ci arrive en courant, son arme dans la main. Lorsque l'ambulance démarre, les phares illuminent la façade de l'église et balaient l'obscurité au-dessus des pierres tombales. Elle s'engage sur la pelouse et s'arrête devant Juna. L'ambulancier, assis au volant, est un homme mince d'une trentaine d'années qui porte une queue de cheval blonde.
« Bonsoir, » dit-il en souriant.
Une infirmière d'une quarantaine d'années, aux cheveux courts, aux yeux vifs et aux lèvres fines, sort du véhicule. Juna lui expose rapidement la situation, explique la base concentrée de produits chimiques et la corrosion en cours.
« C'est urgent !»
insiste encore Juna quand il commence à sortir l'équipement de protection.
« On comprend !»
répond-elle. « Je vais le descendre !» dit Juna avant d'aller ouvrir le robinet d'eau jusqu'à la pression maximale. Les deux policiers l'aident à tirer le tuyau dans la forêt. Il ne s'agit que d'une vingtaine de mètres, mais la distance semble infinie. Lorsqu'ils atteignent enfin le grand chêne, Juna laisse tomber l'embout du tuyau par terre et indique aux deux hommes les cordes qu'il faut couper et celles à enrouler autour d'autres troncs afin de descendre le sac en douceur. « Faites très attention !» les prévient Juna lorsqu'il donne du mou à la corde. Le sac commence à descendre. Il se balance doucement. Tandis que Juna le guide, il sent la chaleur dégagée par le caoutchouc en raison de la réaction chimique en cours. L'ambulancier et l'infirmière reviennent en traînant du matériel sur une civière à godet. Tous les deux portent un masque de protection et des gants en caoutchouc épais. Juna découpe le tissu et le plastique, puis ouvre délicatement le sac soudé. La puanteur est terrible. Ses yeux le piquent sous l'effet des vapeurs chimiques. L'infirmière replie le haut du sac et le policier aux cheveux roux éclaire l'intérieur avec sa lampe de poche. Lorsqu'il voit le contenu, il bredouille quelques mots incompréhensibles et sa lampe tremble dans sa main. Juna sait qu'il s'agit de Manvir, même si son visage n'est plus qu'une surface ensanglantée sur un squelette. Les produits chimiques ont dissous presque tous les tissus. Ses yeux et ses lèvres ont disparu. Son nez n'est plus qu'un trou béant. Sa poitrine s'est enfoncée et forme un creux, mais elle bouge par à coup. Ses mains et ses pieds se sont désagrégés et sont à présent des masses gélatineuses. « Il nous faut beaucoup d'eau, » dit l'infirmière. Juna ramasse le tuyau et asperge la base corrosive. Des mugissements sortent de la cavité qui remplace la bouche de Manvir et ses bras se mettent à trembler. L'infirmière lui fait une injection de morphine et l'ambulancier peine à retenir des sanglots en retirant ce qu'il reste de ses vêtements. Manvir s'agite tandis qu'on le soulève et qu'on le dépose sur un drap de transfert. Il l'installe sur la civière et le porte vers l'ambulance. « On prend l'hélicoptère !» leur crie Juna. Ils font demi-tour et courent avec le brancard à travers le cimetière, suivent le chemin gravillonné le long de la nef jusqu'à l'église où les attend l'appareil. La lumière de l'aube éclaire le ciel lorsque le médecin s'approche de Juna dans la salle d'attente de l'hôpital universitaire d'Uppsala pour lui annoncer que Manvir est mort sur la table d'opération. Juna se rassied lourdement sur l'une des chaises et ferme les yeux. Son portable sonne dans sa poche. « Juna, » répond-il. « Désolé de t'avoir réveillé. Saga, je suis prête à me rendre si l'accord est toujours valable. » dit-elle d'une voix rauque. « Bien sûr. Tu penses que j'ai fait le bon choix ?» demande-t-elle après une courte pause. « Oui, je pense. Ok. Alors tu viens seule et tu me conduis à la maison d'arrêt. » On entrera par l'accès du personnel. Vous pourrez m'interroger sans la présence d'un avocat. Je répondrai à toutes vos questions. Et c'est vous qui déciderez ensuite si je dois être placé en détention ou non. Je suis de ton côté, Saga. C'est vrai? Oui. Il y a un parking circulaire au bout de la rue Strandskatan. Fais le tour en voiture et on se retrouve devant le mur au niveau de la sortie aujourd'hui à midi pile. Dit-elle avant de raccrocher.